BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
Occupez-vous du changement avant que lui ne s'occupe de vous. On vous y aide en tout cas, vous occupez de l'avenir, anticipé grâce au marché. Et en fil rouge, il nous accompagne Antoine Larigauderie. Rebonsoir Antoine.
Rebonsoir Guillaume.
Votre mot du soir.
Prêt. Vous êtes prêt à un 10 ans américain à 4,7%?
Oui, prêt, prêt.
Il va falloir s'y préparer, hein. 4,67, 4,68 là. Et effectivement, le 30 ans, on est au plus haut depuis 2007. 3,83 pour le 10 ans français, 3,19 pour le 10 ans allemand. Du coup, le CAC 40, bon, limite la casse, moins 0,05%, 7,983 points, surperformance de l'Euronext Tech Leaders avec plus 0,9% au compteur, mais on est dans le rouge du côté de Wall Street avec notamment le Nasdaq qui perd 1% et le Russell 2000, l'indice des PME, qui perd 1,7%.
Ce qui devait arriver, arriva. Il y a des prises de bénéfices là aux États-Unis avec des taux qui pèsent lourd, effectivement, et qui finissent par faire basculer ces trois indices américains. En Europe, on bascule aussi dans le rouge, mais dans une moindre mesure, hein, quand même. Là, on a une surperformance européenne peut-être amené à durer. On va poser la question à nos experts. Est-ce qu'on peut même espérer un effet bouchon de champagne sur les marchés européens, spécifiquement sur l'Europe ou encore l'Asie, plutôt qu'à Wall Street, une fois que la paix sera annoncée entre l'Iran et les États-Unis? Pour l'instant, on n'y est pas. Washington reste très menaçant vis-à-vis de Téhéran, et Téhéran, de son côté, menace d'ouvrir de nouveaux fronts inédits. Voilà ce que dit Téhéran si les États-Unis bombardent à nouveau. On va aborder aussi ces thématiques dans un instant avec nos deux experts du club. Et puis, des idées de valeur pour vos portefeuilles boursiers, bien sûr, ce sera à partir de 17h35, comme chaque soir. On n'est pas encore au bout des publications ici à Paris. Ce soir, Euronext annoncera ses résultats. Dernier groupe du CAC 40, Euronext a annoncé ses trimestriels. Ce sera donc tout à l'heure après la clôture. D'ici là, on est à vos côtés. BFM Bourse, on joue dans votre camp pour encore quasiment une heure.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Le BFM Business est partout jusqu'au cœur du G7 Finance qui vient d'avoir lieu à Paris. Les ministres des Finances, les grands argentiers du G7 réunis dans la capitale française alors que l'inflation risque de durer hein, en fonction de ce conflit là-bas au Moyen-Orient. Hugo Babet est notre envoyé spécial sur place donc à Bercy. Hugo, vous avez assisté à ce G7 Finance. Que retenir? Quel bilan? Quelle communication de la part des participants?
Un accord commun en 12 points a été adopté sur les crises, les déséquilibres mondiaux et les terres rares. Il a été adopté par l'ensemble des ministres des Finances des pays du G7. Après deux journées de réunions, de discussions résumées par le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau.
Je peux dire, avec le recul de 11 années, et donc beaucoup de points de comparaison, que le G7 de Paris, ce G7 de Paris, a été un très bon G7. Les discussions intervenaient évidemment dans un moment difficile, mais je crois qu'elles ont eu trois caractéristiques qui font le succès. Elles ont été sans complaisance et lucides face à la gravité de la situation, face aussi aux désaccords. Elles ont été libres entre responsables de haut niveau, et puis elles ont été en confiance.
Dans le détail, le G7 a d'abord réaffirmé un soutien indéfectible à l'Ukraine avec plusieurs mesures. Le maintien, voire le renforcement des sanctions contre la Russie, le maintien du gel des avoirs russes et un soutien à la reconstruction du pays et à la sécurisation du site nucléaire de Tchernobyl. Sur les terres rares, un accord de coopération a été signé avec une mobilisation accrue des banques de développement et une conférence annoncée en juin pour débloquer les investissements sur le commerce mondial. Seul le e-commerce et les petits colis ont réuni tous les pays du G7 pour plus de contrôle et une lutte multilatérale contre les fraudes. Et enfin, deux points d'actualité. Le G7 pointe explicitement les surplus et les déficits excessifs qui alimentent les tensions commerciales. Et le retour à une circulation sûre dans le détroit d'Ormuz est jugé impératif par l'ensemble des pays du G7.
Hugo Babet, notre envoyé spécial donc à Bercy, qui a suivi ce G7 Finance où ce sont réunis les ministres des Finances des pays du G7, les grands argentiers aussi. Alors, Kevin Warsh n'y était pas, puisqu'il ne sera intronisé. Il ne prêtera serment à la tête de la Fed que vendredi, Kevin Warsh, mais l'un des vice-présidents de la Fed représentait quand même, bien sûr, ici à Paris aussi, à ce G7 Finance, la Réserve fédérale. On va continuer de tirer le bilan de ce G7 Finance et les perspectives que ça ouvre pour les marchés avec Estelle Ménard. Elle nous rejoint, directrice d'investissement d'LCL. Bonsoir, Estelle.
Bonsoir, Guillaume.
Ravi de vous retrouver. Wilfried Galland aussi nous accompagne. Bonsoir, Wilfried.
Bonsoir, Guillaume.
Directeur stratégiste de Montpensier Arbevel. J'ai presque envie de dire qu'il tombait bien G7 Finance, enfin en tout cas dans le timing, parce qu'on est en pleine accélération de l'inflation et on est dans la phase où on se rend compte que cette inflation va peut-être finalement durer. On est dans la bascule psychologique un peu. Est-ce qu'il a été utile ce G7 Finance? Est-ce que vous arrivez à en tirer des fruits, on va dire, prometteurs pour la suite?
Alors sur l'inflation, il n'a servi strictement à rien, hein, bien sûr, comme attendu. Le vrai sujet du G7 Finance était d'abord d'exister, et d'exister avec les Américains. Et avec les Américains, en l'occurrence avec Scott Bessent, qui, à la fin de ce G7 Finance, a clairement manifesté sa satisfaction d'avoir échangé sur des sujets sur lesquels Hugo est effectivement revenu, mais globalement des sujets de souveraineté qui sont des sujets communs à l'ensemble des pays du G7. Et je pense que le premier succès de ce G7 Finance est effectivement d'avoir rassemblé autour de la table, autour de problématiques communes, des acteurs qui avaient l'habitude depuis déjà quelques semaines de s'envoyer quand même parfois des pics, en particulier sur les sujets géopolitiques. Je pense que ça, c'était très important. Ce qui me marque également dans ce G7, c'est à la fois évidemment l'attention mise sur le commerce international et sur Hormuz, et sur la volonté de chacun de retrouver des thèmes qui sont des thèmes qu'on voit se propager depuis déjà quelques temps, des thèmes très forts sur tout ce qui est souveraineté, tout ce qui est défense, d'une certaine idée de ce qu'on appelait avant l'Occident, en tout cas, de dire nous devons être beaucoup plus résistants par rapport à des tensions qui mettraient en jeu notre modèle économique et donc notre stabilité sociale et politique. Ça, je pense que c'est quand même très important. Après, d'un point de vue strictement marché économie, il y aura évidemment aucun impact. On attendra beaucoup plus, avec beaucoup plus d'impatience, ces premières déclarations de Kevin Warsh que le communiqué du G7 Finance sur ce sujet-là.
Oui, Kevin Warsh, donc, qui doit prêter serment vendredi à la tête de la Réserve fédérale américaine. Comment vous sentez l'état des marchés, là, en l'occurrence, leur résilience, ou finalement il y a moins de résilience jusqu'à avant-hier ou fin de semaine dernière, on disait ils sont résilients, là, malgré les taux élevés, les marchés sont résilients. Et puis depuis, Wall Street recule, on est sur une troisième baisse d'affilée aujourd'hui des indices américains, Nasdaq perd 1,1% aujourd'hui, c'est la pire série de Nasdaq depuis mars. Est-ce que la résilience est derrière nous, Estelle?
Alors, trois jours, voilà, j'ai envie de dire une hirondelle ne fait pas le printemps, hein. C'est un peu ce qui me passe par la tête, là, quand vous me posez cette question. Néanmoins, je trouve que les marchés sont totalement rationnels. Donc, pour moi, il n'y a pas d'irrationalité dans les marchés. Et aujourd'hui, il est normal, après la bonne performance que l'on a eue, même si elle était en dents de scie, hein, puisqu'on a eu l'Iran, les marchés ont rebaissé un petit peu pour remonter ensuite, malgré cette bonne performance, il est normal que l'on prenne des profits. Malgré, encore une fois, un environnement qui me semble être rationnel, dans la mesure où les perspectives de croissance des bénéfices, qui sont un des dénominateurs ou un des drivers du marché, restent très bien orientées aujourd'hui sur l'année, aussi bien aux États-Unis, mais également dans une moindre mesure en Europe. Le seul problème que nous avons aujourd'hui, c'est l'environnement géopolitique. Et c'est son impact sur l'environnement économique, la croissance, donc l'inflation, et bien entendu la croissance. Donc des marchés qui ne sont pas irrationnels, mais des marchés qui aujourd'hui, compte tenu du niveau des taux, puisque c'est bien là le sujet, hein, c'est le niveau des taux longs aujourd'hui, accuse une baisse, mm-hmm, une prise de profit. Ça me semble là tout à fait dans la rationalité à ce stade.
Et à vos yeux, elle est suffisante, parce que parallèlement, on a suffisamment de croissance, des publications d'entreprises assez rayonnantes et enthousiasmantes pour permettre au marché de résister à ces hausses de taux qu'on observe.
Aujourd'hui,
on recule, mais pas très fort.
Effectivement, on n'a pas atteint, on atteindra peut-être le taux, aux États-Unis, le taux du 10 ans américain sur lequel tout le monde a les yeux rivés, qui est le fameux 5%. Ça, c'est pour les marchés. On voit bien effectivement que le taux auquel les États-Unis, notamment l'administration américaine, va réagir, je pense qu'on l'atteint aujourd'hui, on est en train de l'atteindre, hein. Il l'a déjà atteint quelques temps, et on a vu effectivement que Donald Trump, sur ce taux qui était de 4,70, avait fait une petite pirouette. Donc il faut bien voir effectivement qu'aujourd'hui on est sur des niveaux de taux qui peuvent effectivement nous alerter. Néanmoins, ce que les marchés très certainement attendent, c'est encore une fois une conciliation, quelque chose qui ferait, qui arrêterait la hausse des taux longs sur le marché américain. Et c'est vrai que dans cet environnement de taux qui sont élevés, ou en tout cas qui ont bien augmenté, on reste quand même, les marchés restent soutenus par une dynamique de la croissance des bénéfices, je l'ai dit tout à l'heure, qui était de bonne qualité, oui, par une croissance pour l'instant qui n'est pas entamée. Pourquoi? Parce qu'elle n'en porte pas que sur la consommation des ménages notamment, mais elle porte sur les dépenses d'investissement qui sont significatives, mmh, et qui soutiennent aujourd'hui encore la croissance et on est quand même encore dans un environnement, certes, qui n'est pas celui du début d'année, souvenez-vous, environnement de baisse des taux et de croissance, mais qui reste dans un environnement oui. porteur, même si l'environnement de baisse des taux n'est peut-être
c'est
plus
ça.
D'actualité.
Les taux là se tendent, clairement, il y a un vent contraire pour le marché action. Le 30 ans américain est sur des plus hauts de 2007, le 30 ans japonais sur des plus hauts jamais vus. Le Japon s'est mis à émettre de la dette à 30 ans en 1999, mais jamais les taux à 30 ans japonais n'avaient été aussi élevés qu'aujourd'hui. Le 30 ans français, le 30 ans allemand, bref, tout monte, surtout les taux longs. Et pourtant, les actions, même si elles baissent un peu en ce moment, résistent à peu près. Est-ce que cette fois, effectivement, le marché action peut tenir malgré des taux qui montent, Wilfried ?
Oui. Voilà. La réponse est oui. En fait, si vous regardez par exemple le modèle de valorisation de la Fed, le modèle de valorisation des actions, si je le simplifie un peu de façon cavalière, le multiple de profit qui est normalement celui utilisé par le modèle de valorisation de la Fed, c'est 1 sur les taux longs. Donc si vous faites 1 sur 0,0465, vous tombez à peu près sur 22 ou 23. Et 22 ou 23, c'est le multiple des profits qu'aujourd'hui qu'on a sur le marché. Donc ça veut dire qu'on est exactement dans la norme sur le de valorisation utilisée par les professionnels de la Fed. Donc il y a rien de choquant sur ces aspects-là. En revanche, ce qu'on voit, c'est que les marchés s'inquiètent sur à la fois la fragmentation de la croissance, et effectivement on voit qu'aujourd'hui on a des chiffres durs américains qui sont des bons chiffres, hein, quand on regarde les ventes de détail, quand on regarde les chiffres sur l'immobilier, on a franchement des chiffres qui sont très encourageants sur l'économie américaine, beaucoup moins sur les autres économies, l'économie chinoise, l'économie européenne, l'économie japonaise, quand même pas extraordinaire. Mmh. Donc là, effectivement, il y a cette inquiétude. Et puis la deuxième inquiétude, c'est quand même qu'on a un changement à la tête de la Réserve fédérale. Historiquement, et ce n'est pas Antoine, la mémoire des marchés de BFM Business qui me détrompera là-dessus, les présidents de la Fed, quand ils prennent leur mandat, en fait, n'ont que très rarement un impact positif, voire jamais en fait un impact positif sur les marchés. Les premiers mois sont toujours difficile. Or là, on a avec Kevin Warsh à la fois une volonté de changer la gouvernance de la Fed avec l'incertitude autour du comité de politique monétaire, hein, qui va même être élu président du comité de politique monétaire. C'est pas automatiquement le président de la Fed qui est élu le président du comité de politique monétaire, hein, on verra comment ça va se passer. Et puis, il veut changer à la fois le mode de calcul de l'inflation, il veut changer le mode de fonctionnement de la Fed sur l'utilisation du bilan, il veut réduire le bilan, il veut baisser les taux. Donc baisser les taux courts et réduire le bilan, ça voudrait dire augmenter encore les taux longs. C'est normal que les marchés s'inquiètent, parce qu'on attend encore les premières déclarations de Kevin Warsh sur comment est-ce qu'il va trouver les bons équilibres entre tout ce qu'il a déclaré dans ses auditions, qui sont quand même un mélange de pas mal de choses, des changements très structurels, parfois très positifs, en particulier sur le fait qu'il ne faut plus se fonder sur des données trop retardées, donc l'inflation, la croissance, le chômage, ça c'est très bien quand on va regarder dans le rétroviseur, c'est pas ça qui va permettre de nous projeter vers des scénarios macroéconomiques et des scénarios monétaires. Mmh. Mais comment est-ce qu'il va le faire ? C'est normal aussi que les marchés soient quand même un peu dans l'expectative, et donc font un peu monter les taux. Et puis il y a un dernier élément, Guillaume, je voulais quand même revenir dessus, c'est qu'on a eu énormément de d'émissions de dettes de la part de ce qu'on appelle les hyperscalers, de ceux qui font le marché aujourd'hui de l'intelligence artificielle, et ils émettent avec une prime sur le marché. Ils s'en fichent un peu parce qu'ils ont tellement d'argent que c'est pas un problème. Et aujourd'hui, on a un espèce de renversement du marché obligataire, c'est-à-dire c'est plus les émissions des États souverains qui définissent le marché, et par rapport à ça, on a des primes d'émission qui se déclenchent, on a les émissions des hyperscalers qui font bouger le marché. Et donc tout le marché bouge parce que les hyperscalers émettent avec des primes importantes en disant c'est pas grave, moi je peux payer, mais ça fait monter tout le marché, y compris les taux souverains. Et donc les taux souverains suivent en fait, d'une certaine manière, les émissions de ces géants qui ont pas vraiment d'intérêt qui ont seulement intérêt à ce que les levées de dettes se passent très très bien. Et donc effectivement, on a un changement du marché obligataire de ce point de vue-là.
Oui, mais pas forcément dangereux. Il y a une logique, une rationalité que vous venez de décrire, mais...
Exactement. Aujourd'hui, ce sont de nouveaux équilibres, et donc effectivement, ces nouveaux équilibres ont des impacts sur des pans de marché.
Estelle. La limite quand même de l'exercice, c'est justement, ce sont justement les dettes, la dette souveraine. Donc, comme tu le disais justement, c'est eux qui vont, ce sont ces hyperscalers qui vont définir les taux des émissions souveraines. Néanmoins, le sujet reste l'endettement des pays, et ça, c'est quand même un sujet qui va préoccuper le marché. Alors, vous savez bien que moi, je reste quand même très optimiste, mais faisons attention à ce point-là, puisque finalement, c'est peut-être le point le plus, j'allais dire, le risque le plus quantifiable aujourd'hui, à mon sens, de cet environnement de taux longs qui a augmenté significativement ces derniers jours. C'est justement l'endettement des États, c'est la dette souveraine, et c'est le point justement qu'il va falloir vérifier.
Mais j'ai cru déceler aussi dans vos propos, à l'un et l'autre, une forme de comité de bienvenue des marchés à Kevin Warsh. C'est-à-dire que si les taux montent, c'est pas juste parce que le conflit en Iran s'enlise. Il y a les dettes des États, c'est vrai, mais on les connaît. Il y a les hyperscalers qui viennent faire concurrence, je comprends. Mais il y a aussi une forme de comité d'accueil ad nominem pour Kevin Warsh. Là, c'est-à-dire que le marché est en train de mettre au défi Kevin Warsh, pas complètement convaincu de sa stratégie. Si on est dans la phase où il va arriver à tête de la Fed, il y a un message du marché.
C'est pas un défi, c'est le fait que, en fait, les marchés, ce que détestent les marchés, c'est l'incertitude. C'est le fait de se retrouver face à un environnement monétaire dans lequel les règles changent. Et donc, effectivement, quand vous avez ce changement de règles, bah vous vous mettez un petit peu plus en mode défensif, donc vous vendez un peu plus d'obligations, vous investissez un petit peu moins, en attendant de voir effectivement comment est-ce que les règles vont être définies et comment est-ce qu'elles vont être aussi communiquées. La communication, c'est très important pour la Fed. Je rappelle quand même que avant 1994, il n'y avait même pas de communiqué de la Fed. Non seulement il n'y avait pas de conférences de presse. Les conférences de presse, c'est Ben Bernanke qui la première fois en a fait, pour une réunion sur deux, puis après Powell, toutes les réunions. Mais avant même ça, il n'y avait même pas de communiqué de presse. Or, Kevin Warsh a dit, je veux moins communiquer. Jusqu'où il veut aller? Est-ce qu'il veut revenir après Powell? C'est le scénario central, donc une conférence de presse sur deux. Est-ce qu'il veut revenir encore avant? Pas de conférence de presse. On sait qu'il veut supprimer les fameux grilles de des grilles de points, les dot plots. Oui. C'est quand même beaucoup de changements en même temps. Donc là aussi, les marchés attendent de savoir est-ce qu'ils vont être dans le brouillard et est-ce qu'ils vont devoir, comme il y a 35 ou 40 ans, en fait, regarder les marchés et comment est-ce que les marchés vont se comporter pour savoir ce que la Fed a décidé. Voilà, donc il y a quand même une incertitude là-dessus, et ce sont des incertitudes sur plusieurs plans, plusieurs dimensions. C'est quand même beaucoup, hein. Voilà, voilà.
En attendant, les marchés n'anticipent quasiment pas de baisse des taux, ou entre zéro et une baisse des taux de la Fed.
Ils anticipent même désormais, pourquoi pas, une hausse de taux cette année. Cette hypothèse-là est en train de devenir majoritaire. D'ici à janvier prochain, pourquoi pas une hausse de taux? On est à quasiment 50% de proba.
On va attendre les premières déclarations de Kevin Warsh, on va voir comment ça va bouger.
Oui.
Parce que pour l'instant, tout le monde est en attente, en fait. C'est-à-dire qu'on regarde les indicateurs d'inflation. Mais quels indicateurs, il va falloir voir comment est-ce que ça va jouer et comment est-ce que le comité de politique monétaire, j'insiste là-dessus, va se structurer. Oui. Aujourd'hui, effectivement, on aura 12 personnes au sein du comité de politique monétaire, dont Jérôme Powell. Il n'est pas techniquement impossible, même si c'est peu probable parce qu'il a dit qu'il ferait profil bas, mais il n'est pas techniquement impossible que Jérôme Powell soit élu président du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale.
Comment ça?
Bah en fait, le comité de politique monétaire, c'est pas nécessairement le président de la Fed qui est président du comité de politique monétaire. Pas nécessairement. Ça s'est toujours fait comme ça.
C'est pas parce que le Sénat a validé Kevin Warsh qu'il sera mécaniquement à la tête de la Fed.
Ah si, il sera président de la Fed. D'accord. Mais vous avez la Réserve fédérale qui va faire des opérations, qui fait énormément d'opérations, qui définit les réglementations bancaires, qui définit énormément de choses. Et vous avez le comité de politique monétaire. Ce sont deux choses différentes.
D'accord.
Et le comité de politique monétaire va définir sa structure. Et à l'intérieur, il n'a qu'une voix sur les 12 de comité de politique monétaire. Et il remplace Steven Miran, qui a dû démissionner parce que Jérôme Powell n'est pas parti.
D'accord.
Et donc c'est un Trumpiste qui remplace un autre. Voilà, on va voir comment ça va se mettre en place. Il y a beaucoup d'incertitudes quand même.
Non, c'est sûr. Alors voilà, on est dans cette phase au carrefour, des possibles. La BCE, peut-être un peu plus de visibilité sur la BCE là pour le coup, puisqu'on attend une hausse de taux au mois de juin. Enfin, elle aura lieu ou le marché est en train de la faire, la hausse de taux à la place de la BCE, finalement, elle n'aura pas besoin de la faire. Est-ce que le marché est en train de les relever tout seul, les taux là? Et du coup, ça enlève un peu de travail à la BCE.
Le marché réagit effectivement, mais il anticipe de toute façon cette hausse. Oui, effectivement, il a réagi. Il avait déjà réagi sur la partie des taux courts, sur les taux taux courts. Et là, ce sont les taux longs qui s'ajustent.
De quoi permettre à la BCE de ne pas avoir elle-même à les relever ces taux parce que le marché fait le job tout seul?
Non, je pense que si elle doit les relever, elle les relèvera. Après, on a quand même un sujet qui est la croissance en Europe, qui est l'impact du conflit iranien et du blocage du détroit d'Ormuz sur les perspectives de croissance européenne, qui sont quand même revues à la baisse. Il y a quand même une sensibilité de la croissance économique européenne à cet environnement géopolitique qui est bien plus important que ne l'est la croissance américaine.
On est plus exposé à ce qui se passe au Moyen-Orient, mais du coup, peut-être qu'on profitera davantage que les Américains d'une paix, le jour où il y aura la paix. Hein. Peut-être un effet bouchon de champagne à venir sur les marchés, ou la BCE va empêcher cet effet bouchon de champagne parce qu'elle sera en train de relever les taux. Enfin, comment est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'il faut allouer?
Le rabat-joie.
Mais c'est pas moi, c'est la BCE. Quoi. On aura peut-être une BCE qui relève ses taux au moment où l'Iran et les États-Unis feront la paix. Ça risque d'être paradoxal.
Alors la BCE s'est quand même déjà pris a déjà une expérience malheureuse, hein, qui est de remonter ses taux un peu tardivement par le passé. On l'a tous en tête. Aujourd'hui, il y a quand même deux, trois choses qui me semblent importantes. Enfin, une première chose qui me semble importante, c'est la réaction de la BCE vis-à-vis des politiques et des décisions politiques qui peuvent être prises dans cet environnement de conflit et de hausse du prix du baril de pétrole. Je pense que si la BCE alerte aujourd'hui, c'est pas tant qu'elle a forcément envie d'augmenter ses taux, c'est surtout qu'elle veut prévenir les politiques et les gouvernements de faire attention aux aides justement qu'ils peuvent distiller auprès du consommateur, éviter effectivement l'emballement que l'on a eu lors du Covid. Mmh. Et je pense que à partir du moment où on entend ce que la BCE nous dira, où les gouvernements entendent ce que la BCE nous dira et ne distribue pas cette manne aux ménages à tour de bras, il est possible effectivement, et moi j'y crois vraiment, qu'on n'ait peut-être pas de hausse des taux de la BCE. Et pourquoi? Parce qu'on a un effet sur la croissance qui est très certainement peut-être même sous-estimé du conflit iranien aujourd'hui, du blocage du détroit d'Ormuz. Il est possible qu'on révise à nouveau la baisse les perspectives de croissance économique de la zone euro. Aujourd'hui, faisons attention, la BCE n'est pas là non plus pour stopper, pour casser la croissance. Et je pense que si elle distille ces informations au fil de l'eau, c'est justement pour prévenir les gouvernements quant à leurs éventuels agissements en matière de soutien de la consommation.
Les dissuader de distribuer l'argent, les aides, comme ça avait été le cas pendant le Covid.
Exactement.
Voilà, les dissuader de sombrer dans la facilité quelque part également, en leur rappelant qu'il n'y aura pas de free lunch cette fois-ci, en tout cas pas de la part de la Banque Centrale Européenne. Sur l'Iran, là, c'est un peu guerre épée. Il est en train de réécrire, c'est la version américaine de guerre épée, là, qu'écrit Donald Trump.
Ne pas oublier ce que Woody Allen disait, j'ai eu des cours de lecture rapide sur guerre épée, c'est sur la Russie. Voilà, donc on n'est pas totalement sur guerre épée. Non.
Il dit que des négociations sérieuses sont en cours et parallèlement, il rappelle que les États-Unis sont sur le point de mener une attaque totale et à grande échelle si l'Iran ne s'engage pas, notamment sur le nucléaire, par écrit, le nucléaire, à renoncer au nucléaire, par écrit. Voilà, il le souligne. Mais on a le sentiment que vraiment les États du Golfe Persique sont en train de faire corps là pour dissuader les États-Unis de frapper trop vite, retenir le bras des États-Unis, pousser Washington à garder patience et poursuivre les négociations. On voit les différents dirigeants du Qatar, l'Arabie Saoudite, du Koweït aussi prendre la parole en ce moment depuis le début de cette journée et expliquer qu'effectivement il est très important qu'ils sont en train d'agir auprès de Washington, de faire pression pour que Washington se retienne. Il y a vraiment forme d'initiative des pays du Golfe là qui ont peur évidemment d'une riposte iranienne si les États-Unis frappent à nouveau, on l'imagine, Wilfried.
Oui, c'est le récit américain qu'on a entendu. C'est-à-dire le récit, c'est effectivement j'étais prêt à appuyer sur le bouton, mais comme je suis quelqu'un de sympa et que j'écoute les gens qui m'ont donné de l'argent, enfin ça il l'a moins dit. J'ai décidé de retenir mon bras vengeur. Il va falloir quand même qu'on arrive à faire véritablement la lumière de quel jeu est joué par quel type d'acteur. On a eu également d'autres types de d'éclairage disant que des acteurs comme l'Arabie Saoudite par exemple ne souhaitaient absolument pas s'arrêter au milieu du guet vis-à-vis de l'Iran. Et donc ne surtout pas avoir quelque chose qui fasse qu'en face de l'Arabie Saoudite, il y ait un Iran à la fois déstabilisé, revanchard et extrêmement militarisé, puisqu'aujourd'hui on parle d'un régime qui a tenu. Non, le régime en fait il a totalement basculé. On a basculé d'un régime des Mollahs vers un régime militarisé des gardiens de la révolution. On n'est plus du tout dans un régime théocratique. Il ne s'en cache absolument pas. Donc il va falloir quand même voir comment est-ce que ça se met en place. La question de fond, c'est comment est-ce que on va réussir à préserver un des atouts, une des caractéristiques, une des atouts aussi très forts de l'économie mondiale, qui est la liberté de circulation, la liberté de circulation maritime. Et effectivement, le dossier nucléaire est affiché de façon très forte, mais derrière, on a la sécurité des détroits. Et les détroits, c'est et la sécurité maritime en général, depuis deux siècles et demi, c'est pour ça qu'on fait la guerre. La première opération militaire des États-Unis d'Amérique après l'indépendance, c'était pour contrer la piraterie, en particulier en mer Méditerranée, et la piraterie des bateaux français qui empêchaient un certain nombre de débarquements de marchandises dans les ports américains. Donc c'est extrêmement important de garder ça, parce que ça veut dire que l'Iran pourrait faire basculer le géocommerce mondial dans quelque chose de différent.
La pratique des détroits.
Voilà, et donc quand on entend effectivement que l'OTAN pourrait se mobiliser pour sécuriser le détroit d'Ormuz, on l'a entendu aujourd'hui, c'est la première fois que l'OTAN véritablement se positionne là-dessus, en disant on peut mobiliser des navires pour dire on va sécuriser le détroit. Je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir effectivement attendre, et les discussions nucléaires sont plus, à mon sens, un sujet qui n'est pas annexe et qui n'est pas au centre de ce que les discussions sont en train
D'après Bloomberg, l'OTAN discute du déploiement de troupes dans le détroit d'Ormuz. L'OTAN discute du déploiement de troupes dans le détroit d'Ormuz pour aider les navires à traverser la voie maritime si elle n'est pas rouverte début juillet. Voilà.
C'est ça.
Bon.
Début juillet, c'est dans pas longtemps. Début juillet, on est dans un mois et demi.
Oui, effectivement. Bon, ben voilà, en attendant que le conflit se poursuit, on est à 9 minutes de la clôture. On accélère dans la dernière ligne droite de cette séance. Et Wall Street est toujours en baisse, avec un pétrole qui reste ferme, ancré au-dessus des $110 le baril de Brent. Le S&P 500 perd 0,8. À Paris, on est à peine stable, 7994 points. À noter la baisse d'ArcelorMittal qui abandonne 2,6%, ArcelorMittal cède 10% du capital de Vallourec. Vallourec, du coup, perd 8% aujourd'hui. À la hausse, à l'inverse, Capgemini gagne 4%. On a aussi Thales dans la défense qui progresse de 3%. On en parle avec Estelle Ménard ce soir et Wilfried Galland. À noter d'ailleurs, alors, les différents impacts de ce conflit, parfois des impacts anecdotiques aussi, mais dont on entendra parler pendant le mondial de foot probablement. Il se trouve qu'on va peut-être vers une pénurie de bière, figurez-vous.
Oh là là là.
En tout cas, la bière coûtera sans doute plus cher à cause du conflit en Iran. Pourquoi? Parce que pour faire de la bière industrielle, il faut du CO2. Et une partie de ce CO2 chemine par le détroit d'Ormuz. Voilà, on en fait dans le golfe Persique pour gazéifier les bières. Et en plus, les canettes, il faut de l'aluminium. Et là aussi, une partie de l'aluminium mondial cheminée par le détroit d'Ormuz. Donc, vos bières pendant le mondial, vous qui nous écoutez, qui nous regardez avec modération, les bières, pas de nous écouter, nous regarder, risquent de coûter plus cher pendant le mondial. Voilà.
La géopolitique de la bière à la rencontre des marchés.
Mais oui.
Absolument.
Mais oui.
C'est sur BFM Business, mesdames, messieurs.
Mais oui.
Je parlais avec un féru de foot dans mes équipes qui me disaient de toute façon les bières sont toujours beaucoup plus chères lors des Coupes du Monde, donc
c'est tout. Ah, voilà.
Finalement,
là ils trouveront prétexte pour
exactement.
C'est comme les licenciements à cause de l'IA, c'est pareil.
Oui c'est exactement, on trouve toujours prétexte. Alors Carlsberg, depuis le début du conflit en Iran, perd 17% en bourse. Heineken perd 13% parce que les coûts des intrants augmentent. En revanche, AB InBev, qui est beaucoup plus implanté sur le territoire américain où la dynamique de consommation de bière est plus élevée, résiste mieux. AB InBev gagne 4% depuis le début du conflit en Iran, et ils produisent aux États-Unis, et c'est là-bas aux États-Unis, ainsi qu'au Mexique et au Canada, qu'aura lieu ce mondial. Voilà. D'ailleurs, à propos, Antoine, de ce mondial de foot qui approche, il y a vraiment des liens avec la bourse, parce que les grandes banques de Wall Street se mettent à délivrer des prévisions. Alors, pas seulement sur les marchés financiers, mais aussi sur les scénarios de ce mondial de foot.
Ouais, c'est Bank of America qui a fait des études et qui a interrogé l'ensemble de ses analystes à travers le monde, pour savoir quelle équipe gagnerait le mondial et quel joueur serait d'ailleurs le top scorer, enfin celui qui marquerait le plus de buts. Et bien, il n'y a pas photo. Ils ont fait deux enquêtes. Alors, c'est assez marrant. Ils ont fait une enquête auprès des humains. et ils obtiennent France qui gagne avec Kylian Mbappé, meilleur scoreur. Ils ont fait une enquête auprès de l'IA, de leur IA. Ils ont tout mouliné avec leur IA maison et ils arrivent à 50-50 France-Espagne avec Kylian Mbappé à égalité avec Lamine Yamal, le buteur vedette de l'équipe d'Espagne.
Ah voilà, l'IA
et les humains. Ils sont au courant que Lamine Yamal jouera déjà deux matchs en moins ?
Ah oui, mais ça a dû rentrer dans la moulinette de l'IA. Hein. S'il joue deux matchs en moins, bah, il marquera deux fois plus pour le match où il jouera.
Voilà, à suivre sur RMC, hein, qui fait partie de notre groupe, bien sûr, ce mondial bien de sûr. Foot. Mais bien sûr, Estelle aussi, vous suivrez tout ça.
Bien entendu, je suis une fan.
Moi aussi, en l'occurrence. Voilà, on parlera de tout ça, bien sûr, parce que ça occupe hein, beaucoup dans les salles de marché aussi, dès qu'il y a un mondial de foot. Parfois même, le foot impacte la bourse. Alors, sur certaines valeurs, précisément, on aura mille fois l'occasion d'y revenir d'ici le début de ce mondial. Et pendant ce temps, l'IA, c'est le carton des dernières semaines sur les marchés. C'est l'IA, la tech, qui a porté les publications des entreprises aux États-Unis au premier trimestre. Est-ce que cette hausse des valeurs tech, cette fois, vous semble saine ? Enfin, je dis cette fois parce que la fois d'avant, on se demandait s'il n'y avait pas un peu trop de consanguinité, de circularité dans les investissements, etc. Et donc, un effet bulle. Est-ce que cette fois, la hausse est plus justifiée, en tout cas, moins malsaine, ou elle était déjà pas malsaine la fois d'avant ? Estelle ?
Bon, moi, j'ai jamais vraiment comparé cette hausse à la bulle, comme on l'a fait très souvent, la bulle des TMT. Je vous l'ai souvent dit, hein, pour moi, elle n'avait rien à voir. Pourquoi ? Parce qu'on avait des croissances de bénéfices qui étaient véritablement ancrées. De très belles perspectives de croissance des bénéfices, qui n'était pas le cas quand on était en 2000 dans le cadre de la bulle des TMT. En revanche, aujourd'hui, ce qu'il faut voir, hein, malgré tout, on a des valorisations, notamment aux États-Unis, hein, et malgré la concentration encore plus marquée du marché, on a des valorisations qui sont en deçà de celles que l'on a connues il y a quelques mois. Pourquoi ? Parce que les marchés ont un peu baissé, mais surtout que les perspectives de croissance des bénéfices ont très fortement augmenté. Donc on est sur des niveaux de valorisation du marché américain qui, en dessous des 22 fois, hein, qui finalement n'est pas totalement irrationnel. Certes, porté, bien entendu, par une valorisation plus marqué, plus élevé sur les valeurs de l'intelligence artificielle. Néanmoins, on n'est pas sur une valorisation très élevée. De même qu'en Europe, hein, alors là, on a moins de grandes valeurs technologiques, mais on a quand même quelques belles valeurs qui représentent, en tout cas, sur lesquelles on peut investir.
On redécouvre nos pépites de la tech en Europe.
Oui. On les redécouvre. Hein, ce sont des valeurs qui existent depuis d'ailleurs très longtemps. Hein, je ne les citerai pas, je ne peux pas le faire. Mais ce sont des valeurs que l'on connaît depuis très longtemps. On est sur des niveaux de valorisation qui sont sur les niveaux historiques. Donc, les marchés, aujourd'hui, ne flambent pas. Pour revenir maintenant...
Ah, historiquement bas. Les niveaux de valorisation sont historiquement bas.
Les niveaux de valorisation qui sont historiques. On est sur une moyenne historique de valorisation des marchés européens.
Oui, mais historique à la hausse ou à la baisse ? Je ne comprends pas.
On est à la moyenne en termes de valorisation.
D'accord.
Donc, finalement, on est dans un environnement de marché qui n'est pas non plus, ce n'est pas un environnement de bulle. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, il y a des moyens de jouer cette thématique à travers, effectivement, les hyperscalers qui sont peut-être plus chèrement valorisés, mais également d'autres activités, d'autres secteurs, de l'économie, de l'écosystème de l'IA, dont on a souvent parlé, un peu les pelles et les pioches, hein, mais les valeurs énergétiques, les valeurs d'électrification, les valeurs de construction, qui sont des valeurs qui se nourrissent également de cette dépense d'investissement et de cette croissance qui est liée à l'IA. Et ça permet justement de diversifier ses portefeuilles de façon intéressante sur différents secteurs d'activité.
C'est là-dessus cette thématique que vous investissez en priorité là, chez ACL, ou vous voyez d'autres...
L'écosystème de l'IA fait partie des thématiques sur lesquelles nous investissons, bien entendu. Mais ce n'est pas la seule thématique. On trouvera également des valeurs bancaires dans nos portefeuilles. On va bien entendu retrouver des valeurs qui ont une consommation liée à l'environnement également émergent, même si aujourd'hui c'est compliqué. On aura des valeurs défensives parce que de toute façon, dans une moindre mesure, parce que de toute façon, comme vous le disiez tout à l'heure, les performances ne sont pas excellentes aujourd'hui. Hein. Vous citiez l'exemple de valeurs de la bière, mais la consommation aujourd'hui, ça peut être un secteur défensif si les marchés venaient à baisser un peu plus.
Est-ce que sur l'IA, on n'oublie pas un peu trop vite la limite énergétique ? On sait qu'on a besoin d'électricité, mais il se trouve que là-dessus, le prix de l'électricité aussi est une donnée importante et la Chine prend beaucoup d'avance. On a découvert ce chiffre tout à l'heure. La Chine est en train de construire en ce moment 38 réacteurs nucléaires en cours de construction. Aux États-Unis, zéro. Ils n'en construisent aucun en ce moment. Est-ce que là, les États-Unis sont en train de creuser leur future défaite, quoi, de tracer le sillon d'une future défaite face à la Chine, parce que le prix de l'électricité et de l'énergie sera clé pour la data et donc pour la dominance de l'IA à l'avenir.
La réponse est non.
Oui, voilà. C'est très bien.
Voilà. En fait, je pense que les États-Unis ont un mix énergétique et la capacité d'être autonome en termes de production de gaz,
mais d'avoir une énergie moins chère que la Chine, que la Chine, Wilfried.
En fait, le signal prix en Chine, il n'existe pas. Donc, c'est pour ça que la plupart des entreprises industrielles chinoises, je rappelle, sont en perte en fait. Donc, tout le monde s'extasie sur le tissu industriel chinois qui est extraordinairement productif. C'est formidable. Il est productif parce que ils investissent toujours autant, quasiment 35% du PIB, pour produire de moins en moins en fait marginalement. Et effectivement, ils construisent beaucoup de réacteurs nucléaires et ils en ont besoin parce que ils ont ni gaz ni pétrole. Et ils ont surtout énormément de charbon, et c'est toujours l'économie qui est de très loin utilise de plus de charbon. Donc oui, ils le font, mais faut pas
parce
non plus s'extasier.
Parce qu'ils viennent de plus loin, c'est l'idée. Il y a aussi des grands barrages hydroélectriques. Alors la Chine construit 38 réacteurs en ce moment en cours de construction. C'est le pays qui en construit le plus en ce moment. Devant qui? Devant l'Inde et la Russie, ex aequo, loin derrière. 6 réacteurs en construction en ce moment en Inde, comme en Russie, et derrière, il y a le Bangladesh. 2 en construction au Bangladesh. Voilà. L'état des lieux, voilà, le championnat des constructeurs de réacteurs nucléaires dans le monde. Antoine.
Alors là, on est reparti sur le tissu énergétique. On revient du côté de l'IA pure. Et les disruptions, ça va vite. Il y a André Karpathy, qui est cofondateur d'OpenAI, qui a décidé de rejoindre Anthropic. Voilà, c'est le joli mercato de l'après-midi.
Ah oui, voilà. Ah, ça c'est une info quand même. Dans cet univers, avant les introductions en bourse très attendues justement de l'un.
Alors avant qu'il se fasse remplacer par une IA, on arrive en pile, hein. Mais
oui, c'est bon. Dans un instant, la clôture. Et c'est une info intéressante qu'il fallait effectivement livrer à nos auditeurs et téléspectateurs avant la clôture. Dans un instant, on est un peu en retard, donc on entre dans la data room, mais vous n'aurez chacun que 30 secondes.
Allez, 30 secondes. Allez, c'est parti.
Ils sont chauds. Il relève le défi, Estelle et Wilfried, 30 secondes chacun. On va démarrer avec vous, Estelle. Votre chiffre, 28%.
28%, c'est les perspectives c'est la croissance des bénéfices des sociétés au premier trimestre aux États-Unis.
Wow.
Ça vient de 15%, on a quasiment fait x2. Ça vient de 13%, on a fait plus que x2, finalement. C'est une très bonne nouvelle. On a une publication qui est des publications formidables. 80% des publications ont battu le chiffre d'affaires. 84% ont battu les BPA anticipés. C'est formidable. On a une marge nette qui est à 15% quasiment.
Donc ça va et ça colle avec ce que vous le disiez tout à l'heure, Wall Street n'est pas survalorisé. Estelle, incroyable ce chiffre, 28% la hausse des bénéfices par action au premier trimestre aux États-Unis, plus 28%, truc complètement dingue. À vous Wilfried, on va voir si vous serez à la hauteur d'Estelle.
Votre chiffre. Sans doute pas, mais je vais faire de mon mieux.
Vous allez essayer, 2,36%.
Oui. 2,36%, c'est le chiffre de ce que Kevin Warsh appelle mean trimmed inflation. Mean trimmed inflation, si je traduis, c'est l'inflation tendancielle recalibrée, c'est-à-dire vous enlevez les trois éléments les plus forts et les trois éléments les plus faibles, et vous tombez effectivement sur ce chiffre de 2,36% qui est selon lui la norme désormais à utiliser, ce mean trimmed inflation par rapport au core PCE. Donc genre 2,38%, le core PCE c'est 3,2%. C'est beaucoup plus facile de baisser les taux quand vous êtes à 2,38 que quand vous êtes à 3,2.
Cette autre mesure de l'inflation que utilisait Kevin Warsh, donc, et qui va dans le sens de baisse de taux.
Inflation tendancielle recalibrée.
On change le thermomètre, c'est tellement plus simple.
Exactement.
Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés. Wilfried Galland, Montpensier Bevel, bravo Wilfried et bravo Estelle d'avoir tenu en 30 secondes vos datas respectives. Estelle Ménard, directrice d'investissement chez LCL. Bonne soirée, dans un instant c'est la clôture avec Antoine. À tout de suite.
À suivre dans BFM Bourse, la clôture de la Bourse de Paris. BFM Bourse, la clôture de la Bourse de Paris.
Avec Antoine. Rebonsoir Antoine.
Rebonsoir Guillaume.
Comment termine-t-on aujourd'hui ?
Ben quasiment à l'équilibre, dites donc. Moins 0,07%. 7981 points. C'est quand même bien payé au vu de l'agitation autour du marché obligataire en ce moment. On va y revenir dans quelques secondes. L'Euronext Tech Leaders, l'indice des valeurs technologiques, surperforme. Plus 0,73%. Puis à noter que l'Eurostock 50 a terminé légèrement dans le vert, lui. Plus 0,04%. Et une surperformance assez nette du DAX à Francfort. Deux jours de suite de surperformance assez claire. Plus 0,38%. Le cocktail qui nous a aidé à bien résister à Paris, c'est quand même la techno et la défense. Capgemini plus 4,4%, 105,30. Thales plus 2,96, 226,30. Dassault Systèmes plus 2,80, 20,28 €. L'infusion IA et data autour de Publicis continue de fonctionner. Le titre a pris encore 2,4% aujourd'hui à 83,70 €. En revanche, à la baisse, ArcelorMittal moins 2,5, 51,26. Saint-Gobain moins 2,33, 73,02. Le Grand et Schneider en baisse de 2% chacun à peu près. Les taux obligataires, 3,83 pour l'OAT 10 ans, 4,67 pour les 10 ans américains et le pétrole, $110 pour le
baril. Ça reste tendu tout ça, effectivement. Andrea Twenit avec nous. Saxo Bank, rebonsoir Andrea. Quelle leçon tirez-vous de cette séance aujourd'hui à Paris?
Les leçons, c'est essentiellement l'impact de l'obligataire aujourd'hui sur les marchés. On a vu une séance assez lourde sur les marchés américains, sur le CAC on avait bien commencé et derrière on s'est retourné. Donc on va chercher maintenant potentiellement des niveaux de support autour des 7000, c'est une zone vers 7920-7940. C'est vraiment cette zone de support qui est à surveiller désormais. Et c'est une zone qui est un petit peu à risque quand même. Il faudrait éviter de basculer sur quelque chose de plus négatif. Et à l'inverse, qu'il faudrait essayer de rattraper pour un peu invalider la séance d'aujourd'hui qui est assez rouge, c'est 8080 et 8150. Alors même si le CAC aujourd'hui résiste bien par rapport aux indices américains, les signaux qui sont envoyés sont pas forcément bons par rapport aux autres séances, et surtout sachant que le CAC, quand on regarde notamment le marché des options, est plus dans une dynamique de neutralité en ce moment qu'une dynamique vraiment fortement baissière, même si encore une fois la perspective sur les dernières semaines est plutôt négative. Mais là ça peut être un petit peu plus lourd, surtout si on a une tension accrue sur le marché obligataire.
Merci Andrea, vous nous accompagnez vous aussi jusqu'à 18h CBFM Bourse pour encore une grosse dizaine de minutes.
BFM Bourse, on refait la séance.
François Bigard nous rejoint, responsable de la recherche Action France de Kepler Chevreux. Bonsoir François.
Bonsoir Guillaume.
Bienvenue. Tiens, un titre qui se distingue ce soir à Paris, Lanterne Rouge du CAC, ArcelorMittal, moins 2,5 et Vallourec surtout. Vallourec qui recule en clôture ce soir d'un peu plus de 7,9%. Moins 8% on va arrondir pour Vallourec. Moins 8 Vallourec parce qu'Arcelor justement a décidé d'alléger sa participation au capital de 10%. Qu'est-ce qui leur prend Arcelor? Ça faisait 2 ans qu'ils avaient investi et déjà 2 ans plus tard ils choisissent d'alléger de 10% leur participation.
Alors il faut reconnaître qu'il y a 2 ans ils nous avaient dit que c'était une prise de participation au opportuniste à l'occasion de la sortie du fonds Apollo. Aujourd'hui, ils revendent à 24 € une partie de leur participation seulement. Ils étaient rentrés à 14, donc ils dégagent déjà une belle plus-value.
Bien joué.
Donc il fallait les croire en réalité. C'était opportuniste. C'est étonnant parce que c'est pas une holding, donc c'est pas une pratique qu'on attend de leur part. L'inconvénient, évidemment, pour Vallourec, c'est que c'est une espèce de double peine. C'est-à-dire que d'un côté, l'attrait spéculatif de « ils vont se faire racheter un jour par Arcelor » disparaît, et que d'autre part, il y a la perspective de la suite de la sortie d'Arcelor, maintenant qui semble tracée. Alors il y a une période de 90 jours pendant laquelle ils vont rien faire, mais on sait qu'à terme, ça pèsera un petit peu sur le titre d'un point de vue technique. Il y a plein d'exemples de valeurs comme ça qui sont un peu pénalisées. Je pense à Bureau Veritas, par exemple. On sait que Wendel va sortir un jour. Voilà, ça pèse. Les investisseurs n'aiment pas trop quand il y a ce risque. Oui. L'afflux de titres sur le.
On parle toujours de prime spéculative. Quand on imagine un groupe prendre le contrôle du capital, ça fait monter la valeur. Là, c'est de la déprime spéculative qui risque de pendre au nez de Vallourec.
C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça.
Oui. Bon, aujourd'hui, effectivement, ça la déprime. Moins 8%. En plus, il se trouve que ArcelorMittal a cédé 10% du capital avec une décote de 8%. Et comme par hasard, Vallourec perd 8% ce soir. Donc le marché s'aligne sur la décote.
C'est assez cohérent, le marché est assez efficace.
Oui, oui. Ça dit quoi aussi? Parce que Arcelor est très opportuniste là-dessus. Ils ont effectivement dégagé une belle plus-value sur l'opération qu'ils comptent redistribuer à leurs actionnaires. Ça dit quoi ça? Est-ce que ça nous permet de découvrir une phase peut-être qu'on n'imaginait pas d'ArcelorMittal effectivement? Voilà.
C'est aussi qu'il faut qu'ils neutralisent l'effet sur leur compte de cette sortie. C'est-à-dire que cette participation, elle était comptabilisée en mise en équivalence dans leur compte. Et le fait de la sortir, il faut qu'ils remplacent ce profit qui sera manquant. Et donc, en rachetant des actions, ils neutralisent l'effet dilutif sur leur bénéfice par action.
Ce soir, ArcelorMittal perd 2,5%. En clôture, Vallourec perd 8%. Ça reste deux belles valeurs ou vous avez des doutes désormais sur l'une d'elles?
Non, ce sont deux belles valeurs. Après, ouais. Vallourec est quand même bien valorisé. On est plus positif sur Arcelor que sur Vallourec.
Est-ce que vous aimez le foot, François?
Je ne suis pas un passionné, même si on va entrer dans une période où ce sera impossible de ne pas en entendre parler, de se passionner au moins pour l'équipe de France, j'espère prochainement.
Oui, on souhaite tous, bien sûr. Et vous comprenez ceux qui aiment le foot, on va le dire comme ça. Vous n'êtes pas un passionné, mais vous comprenez ceux qui ont la passion.
Je sais que je vais être obligé de regarder quelques matchs
vous aussi,
en famille.
Ouais. Oui. Bon, bah, il se trouve que justement, on va parler alors de l'équipe de France. On lui souhaite un long parcours pendant le mondial, mais on va aussi parler du PSG. On lui souhaite une belle finale et une victoire dans quelques jours, bien sûr. Il se trouve que pour Accor, c'est très important puisque Accor vient de renouveler son partenariat avec le PSG jusqu'en 2030. Et pour certains clients d'Accor, d'ailleurs, ça ouvrira droit à des places, un accès privilégié au Parc des Princes, d'ailleurs. C'est important, ça, pour Accor. C'est une valeur sur laquelle vous portez un regard lié aussi au lien avec le PSG.
Alors, c'est important si on veut penser à la valeur de la marque. Puisque c'est associé à un programme de fidélité qui compte quand même pas loin de 100 millions de membres, je crois, dans le monde entier. Donc le fait d'associer la marque PSG, qui est vraiment une belle marque, à Accor pour les clients d'Accor, c'est quelque chose qui a de la valeur. Ça a aussi de la valeur quand on est dans un motel asset-like comme celui d'Accor, pour tous les porteurs de murs, puisque finalement la marque Accor est aussi ainsi valorisé. Alors je pense qu'il faut le regarder de cette façon, pas simplement par la contribution économique de ces revenus annexes associés à ces programmes de fidélité, parce qu'ils ne sont pas énormes. Ça a beaucoup progressé, mais c'est 1% des revenus du groupe. En revanche, pour la construction de la valeur de la marque, c'est important.
Ça permet de rayonner, c'est toujours important. André Twenit est avec nous depuis Saxo. D'un point de vue technique, graphique, Andrea, c'est ça que vous regardez sur les marchés. Quel potentiel vous voyez sur Accor ?
Bah, le potentiel, il est encore un petit peu indécis. On est plus sur une phase neutre, mais il y a quand même quelques signaux qui sont importants. Déjà, il y a des supports et résistances qui sont très marqués, qui sont très clairs. On a un support qui se situe au niveau de la moyenne mobile à 50 jours vers 42,82. Si on venait à casser ce niveau-là, pour le coup, on pourrait glisser jusqu'à 40. Et à l'inverse, on a une résistance qui, elle, se situe plutôt autour de la moyenne mobile à 200 jours. Vers 44,44, avec là encore, si en cas de cassure, on peut aller viser des niveaux tels que 47,80, voire 48,40. Donc ça, c'est à peu près la configuration qu'on a en termes de support-résistance qui est très marquée. Mais il y a un autre aspect qui est intéressant à surveiller aussi, c'est on a eu du coup une correction qui est un rattrapage qui s'est fait à partir du mois de mars. Et dans cette phase de rattrapage qu'on a connue à partir du mois de mars, on observe que les volumes sont 19% inférieurs à la moyenne des 90 derniers jours sur ce titre Accor. Donc ça veut dire que dans cette phase de rebond, il n'y a pas eu beaucoup d'intérêt acheteur, c'est plutôt du short covering, hein, de la couverture de position short. On est plus dans ce type de configuration que dans une configuration de conviction où on a des acheteurs qui sont venus porter le titre à la hausse. Donc pour nous, on estime que ce rebond, il est fragile sur ces bases-là, mais voilà, il faudra surveiller l'évolution du titre entre ces deux niveaux de support résistance qui sont formés par la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 200 jours.
Accor ce soir recule de 0,4%, donc malgré le renouvellement de son partenariat avec le PSG jusqu'en 2030. Le CAC est en petite baisse, en clôture, moins 0,1%. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale examinait le projet de loi d'urgence agricole, figurez-vous. On en parlait justement, comment investir grâce à la bourse dans l'avenir de l'agriculture. C'est hyper important pour notre souveraineté aussi, notre indépendance, nos paysages tout simplement. Ben, vous pouvez le faire à travers la bourse, des sociétés que nous ont présentées les experts d'Ecofi. Erwan Ferrari était avec nous dans Thème d'avenir, cette séquence Thème d'avenir, c'était très intéressant. En plus, c'est disponible en replay sur l'application BFM Business. Vous-même, François, avec vos équipes chez Kepler Cheuvreux, est-ce qu'il y a comme ça une valeur dont vous vous dites, ouais, celle-là, on y croit dur comme fer pour la suite sur les marchés?
Alors en ce moment, vous parlez d'Ahold Delhaize, qui est une valeur de, de distribution alimentaire. Alors les Français la connaissent pas forcément, mais c'est un géant du secteur. C'est plus de 30 milliards de capitalisation. C'est les deux tiers de son activité sont aux États-Unis, avec des enseignes comme Food Lion, Anna Ford. Donc c'est surtout sur la côte est des États-Unis pour deux tiers, et puis un tiers en Europe, aux Pays-Bas, c'est le leader avec Albert Heijn. Pourquoi Ahold Delhaize? Parce qu'en fait, il y a un moment technique où finalement le titre a souffert pour des mauvaises raisons. Il y a eu un changement de management qui n'était pas prévu. Le marché est un peu pris de court. Le titre a un peu baissé. Alors que les fondamentaux sont là, les croissances au premier trimestre étaient plus fortes qu'attendues. C'est une valeur qui peut bénéficier de la consommation, qui est très résistante dans les zones où ils sont. C'est une valeur qui est plutôt favorablement impacté par l'inflation. Un distributeur alimentaire, ça aime bien quand il y a un peu d'inflation, un peu plus d'inflation. Et puis, il y a un thème nouveau sur les distributions alimentaires qui est, comme pour beaucoup d'autres, c'est l'IA, mais c'est un soft winner de l'IA. Parce que dans un supermarché, vous perdez de l'argent si vous n'avez pas le produit à vendre, si au contraire vous avez trop de produits et que vous avez des produits périmés. Et comme la marge dans un supermarché, c'est très faible, quelques pourcents, l'IA va permettre d'optimiser cela. Et c'est quelque chose de nouveau dans l'histoire de la distribution alimentaire. Et des groupes comme Ahold Delhaize sont vraiment bien placés pour en profiter.
Oui, il y a aussi Walmart, bien sûr, qui a pris de l'avance sur tout ça, qui publiera après-demain ses résultats. Walmart, bien sûr, qu'on suivra beaucoup à Wall Street. Demain soir, c'est Nvidia qui annoncera ses résultats. Donc, Ahold Delhaize, vous l'aimez bien cette valeur. On est aux Pays-Bas, donc c'est éligible au PEA.
Exactement.
Pour ceux que ça intéresse. Une voiture électrique pas chère, mais 100% européenne. Est-ce que ce sera possible un jour? Est-ce que c'est déjà possible? En tout cas, Stellantis, qui n'est pas qu'européen, qui est aussi américain, Stellantis, annonce un nouveau projet de petite voiture électrique accessible, d'entrée de gamme, destinée au marché européen. Voilà.
Alors, entièrement européenne, je ne sais pas, parce qu'ils ont un partenariat avec Leap Motor, donc je ne suis pas sûr que le moteur soit complètement européen.
C'est même sûr que non, parce qu'ils ont insisté sur le fait qu'ils le feraient en partenariat.
Voilà. Alors, s'ils ont une JV dont ils détiennent 51%, donc peut-être que par ce biais, on peut dire que c'est complètement européen. Alors, Stellantis avait un petit problème sur les voitures électriques. Vous savez qu'en Europe, il y a un soutien public pour les voitures électriques, mais il faut qu'elles fassent moins de 4,20 m. Pas de bol, Stellantis n'avait pas de voiture de moins de 4,20 m. Donc cette voiture-là, c'est un petit peu comme les fermetures éclair, vous savez, dans le soutien public à la réparation. Selon la taille de la fermeture éclair, vous n'avez pas la même prime. Là, c'était un peu ça, c'est parfois absurde. Oui. Toujours est-il qu'il lance cette voiture qui devrait arriver en 2028, autour de 15 000 €, je crois. Par ailleurs, il va y avoir une actualité importante pour Stellantis, parce que dans deux jours, jeudi, ils ont leur Capital Market Day, dans laquelle on va parler sans doute de bien d'autres choses que simplement cette voiture-là. Nous, on pense que ça pourrait être centré sur les États-Unis, qui est évidemment premier marché pour Stellantis, avec la capacité à relancer la croissance en s'affranchissant un peu justement des règles européennes sur la question des énergies, en étant plus à l'écoute de leurs consommateurs. Donc, notamment, c'est la relance de leur V8 qui est très demandée par leurs consommateurs américains.
Oui, si c'est lentille, vous y croyez ? Ou avec prudence, tout le secteur auto peut-être d'ailleurs.
Sur le secteur auto, on est assez réservé. Stellantis est plutôt bien placé dans le spectre.
Antoine, en 30 secondes, Stellantis donc peut-être une low cost européenne dans l'électrique.
Ah oui, ils nous réinventent la Dacia Spring, hein, ça a déjà été fait. La C3 était censée être une voiture très bon marché. Bon, au prix final, c'était pas si bon marché que ça. L'équation reste entière. Comment réaliser une voiture électrique bon marché 100% européenne qui ait des batteries européennes? Là, pour l'instant, je ne vois pas comment on fait.
Ouais, on n'a toujours pas la clé, hein, en l'occurrence. Merci beaucoup à toute la team. Merci à François. François Digard pour Kepler Chevreux avec nous ce soir. Votre première en plateau, d'ailleurs. J'espère que vous reviendrez. Voilà,
si je serai invité.
Mais bien sûr, ça s'est super bien passé, François. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés.
Merci.
Merci à Antoine, que vous retrouverez dans un instant avec Edwige Chevrillon dans le 18-19. Le CAC ce soir recule, moins 0,1%. Bonne soirée à tous.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.